Vous êtes sur RTL. RTL. 23h, minuit 30.
Parlons-nous.
Caroline Dublanche sur RTL.
Bonsoir, c'est Caroline Dublanche, heureuse de vous retrouver. Jusqu'à minuit et demi, l'antenne d'RTL est ouverte à tous vos sujets personnels, y compris les plus intimes. Sarah et Paul sont prêts à vous accueillir au standard de Parlons-nous. Tous vos appels sont les bienvenus au 09 69 39 10 11. Et à tout moment, vous pouvez vous joindre à nos échanges, donner votre point de vue en envoyant un SMS au 64 900 avec les trois lettres RTL au début de votre message, 35 centimes par SMS, sur notre page Facebook aussi, RTL-Parlons-nous, ou directement en nous passant un petit coup de fil 09 69 39 10 11. Nous sommes en direct jusqu'à minuit et demi et c'est Nicolas Godet ce soir à la réalisation de l'émission. Bonsoir Sarah.
Oui, bonsoir.
Bonsoir et bienvenue.
Merci, merci de m'accueillir, merci de prendre le temps de m'écouter et je l'espère de me conseiller.
J'espère.
Oui. Alors, je vais présenter un petit peu ma situation. Donc, j'ai 32 ans.
Oui.
Je suis en couple depuis 16 ans, puisque j'ai rencontré mon conjoint à 16 ans.
D'accord.
Très jeune.
Ah oui, déjà une longue, très très longue histoire, alors que vous êtes jeune. Oui.
Oui. J'estime que c'est une chance, que j'ai eu la chance de le rencontrer assez vite. Donc, on a une vie, somme toute, très classique. Hein. On s'est connus au lycée, on a fait nos études, on s'est installés ensemble.
Oui.
On a acheté un appartement, une vie classique. Mais une vie à 100 à l'heure, hein, avec le travail, la vie que tout le monde mène. Et l'année dernière est arrivé le confinement.
Oui.
Je vous avoue que j'ai un peu redouté au début cette épreuve de me retrouver 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec mon conjoint, puisque finalement on se croise plus qu'on se voit, hein,
Oui.
Et j'ai beaucoup redouté ce moment-là. Et à ma grande surprise, ça s'est très, très, très bien passé.
Oui, vous avez apprécié ce temps de pause finalement forcé.
Exactement.
Mais...
Oui. Et finalement, on s'est retrouvés. On a beaucoup ri, on a beaucoup échangé.
Oh,
c'était
oui.
une période agréable. Alors, je sais que pour certains, ça a été dur. Mais c'est vrai que pour nous, c'était une parenthèse de vie qu'on a appréciée.
Et c'est formidable.
c'est
bien parce que certaines personnes l'ont vécu comme vous et c'est formidable au bout, vous êtes connue très jeune, à 16 ans, et d'avoir au fond ce plaisir à vous retrouver, peut-être à vous redécouvrir, finalement cette complicité qui vous amène à rire ensemble, c'est précieux.
Exactement,
ça.
C'est vraiment ce qui est la force de notre couple, c'est le rire en fait.
Ah, je veux bien
c'est
croire.
Vraiment ça.
C'est vrai que c'est on en a besoin et c'est vraiment c'est pas donné à tous les couples donc
c'est
chouette.
c'est vrai. Et donc, on a tellement apprécié ce moment que, alors je vous avoue, même si ça s'est très bien passé, moi je suis une personne assez angoissée, donc il y avait toute cette angoisse de la pandémie, de qu'est-ce qu'on va devenir, mon Dieu, dans quel monde on vit.
Oui.
Et bizarrement, moi qui avais conçu ma vie, j'avais jamais eu de projet d'enfant, je concevais parfaitement ma vie sans enfant, ce qui n'était pas forcément le cas de mon conjoint, mais bon, pour l'instant, on se satisfaisait comme ça.
Mm-hmm.
Et finalement, malgré le monde un petit peu étrange dans lequel on évoluait, on a décidé de faire un enfant. Puisque moi je me posais un peu des questions sur le sens de la vie et je me suis rendu compte que le travail c'était bien mais bon, dans des périodes difficiles on se retourne vraiment sur notre famille et l'envie de concevoir ma propre famille.
Oui.
Donc je suis tombée enceinte très rapidement.
Oui.
Donc, super nouvelle. Une grossesse qui s'est très bien passée sur le plan physique. Enfin, j'ai pas été malade, j'ai pu travailler jusqu'au bout. Très bien. Par contre, sur le plan psychologique, un peu plus compliqué.
Des angoisses
Exactement.
Oui.
Beaucoup d'angoisses, beaucoup d'insomnie.
Oui.
Et beaucoup de cauchemars. Des cauchemars.
D'accord. Et des cauchemars un peu récurrents, c'est-à-dire qui...
Mais en fait, des cauchemars très précis. Alors que d'habitude, quand on fait des cauchemars de manière habituelle, c'est assez flou. Moi, c'était très précis. Il y avait vraiment un début, un milieu, une fin. Vraiment, c'était comme un film. Mais
jamais le même. C'était pas quelque chose qui revenait régulièrement. C'était pas toujours le même cauchemar.
Non, c'était pas toujours le même cauchemar.
Et ça tournait autour de quoi ? Quels étaient ces cauchemars que vous faisiez là ?
C'était jamais les mêmes, donc je pourrais pas.
D'accord, vous pouvez pas. Oui, c'est pas comme s'il y en avait un qui prédominait. Ouais. D'accord.
Non, non. Mais par contre, vraiment des cauchemars très angoissants et qui semblaient très réels. Donc il y a eu ces problèmes-là, il y a eu des problèmes d'insomnie.
Oui. Et pas seulement dans le dernier trimestre de la grossesse, plutôt.
Alors les cauchemars toute la grossesse. Oui. Et les insomnies plutôt le dernier trimestre.
Oui, c'est très fréquent. Hein.
Ouais.
Bah d'abord parce que physiologiquement le bébé pèse, l'utérus comprime la vessie. Ouais. Enfin il y a beaucoup de choses, ça devient compliqué le sommeil.
Moi j'avais un bébé qui confondait le jour et la nuit, donc qui était très réveillé la nuit.
Ben voilà, alors ça prépare finalement parfois c'est la nature ça. Est bien faite, ça prépare un peu. Aux nuits sans sommeil quand le bébé est là. Oui.
Exactement, c'est tout à fait ça. Et sur le plan des émotions, beaucoup d'angoisse évidemment, mais oui. C'est normal, hein, j'allais devenir
oui.
maman.
Oui, c'est normal. Oui, c'est normal.
Mais par contre, beaucoup de tristesse et beaucoup de colère. Alors que je suis pas une personne, je pense pas être une personne triste, ni une personne colérique.
Oui.
Et par contre, là, la colère et la tristesse.
Et qui ne portait pas sur des... Enfin, vous n'arriviez pas à la rattacher à des événements précis ou des situations précises. Vous étiez un peu envahie par moments par des vagues de tristesse ou de colère, mais sans trop savoir à quoi les rattacher.
Oui, et puis parfois je les rattachais à des personnes, à des situations, mais c'était changeant.
Oui.
C'était pas tout le temps j'en veux, je ne sais pas, mon conjoint. Non, non, c'était tous les jours, ça changeait, mais vraiment une colère qui m'envahissait et une tristesse inouïe. Voilà, grossesse plus compliquée sur le plan psychologique. Après, mon fils est né.
D'accord, c'est un petit garçon.
Oui, c'est un petit garçon.
L'accouchement s'est bien passé ?
Très bien, long. Oui. Long, douloureux bien évidemment, mais il s'est bien passé, il est né à terme, j'en garde un bon souvenir.
Oui. Qu'est-ce que vous me disiez, pardonnez-moi, parce que je vous ai demandé comment s'était passé l'accouchement, et vous me parliez de votre petit garçon, vous m'avez dit un élément de sa personnalité.
Je disais qu'objectivement, j'ai le meilleur bébé du monde.
Bon, tant mieux, un petit bébé facile.
Ouais, j'ai un bébé qui est beau, qui est mignon, qui est souriant, qui est calme, qui est sage. Enfin, vraiment, j'ai le bébé rêvé. Je suis presque gênée de le dire parfois, mais vraiment, j'ai le bébé rêvé.
Bon, ben non, c'est bien. Il y a des bébés comme ça qui sont tranquilles, effectivement, qui sont... pour qui tout ça se passe bien. Donc, les débuts de vie, plutôt agréables, malgré la fatigue.
Malgré la fatigue, effectivement, on ne dort pas beaucoup, pas du tout.
Il faut le dire,
Il faut le dire, il faut être au courant de ça. Alors, quand vous avez votre dernier trimestre, vous avez des insomnies et que vous accouchez fatigué et que vous enchaînez avec un nourrisson, c'est vrai que c'est une période qui n'est pas facile. Mais moi, je l'ai ressenti comme... un tsunami d'amour qui m'est tombé dessus, vraiment envahi d'amour pour mon garçon. Donc c'était très bien, tout s'est bien passé. Et puis j'ai été suivie par une sage-femme pour ma rééducation qui m'avait suivie pendant ma grossesse, donc qui m'avait vue déjà parfois triste pendant ma préparation à l'accouchement.
Oui, elle s'en était aperçue.
Oui, elle s'en était aperçue. Et au bout de... Je sais pas, mon fils avait peut-être 2-3 mois.
Oui.
Et là, je m'effondrais totalement et je me suis effondrée auprès d'elle. Mmh. Et si vous voulez, je pleurais, mais tout le temps. Tout le temps.
Oui.
Mais de jour comme de nuit et sans savoir pourquoi, en fait.
Oui, c'est ça. Donc, sans savoir ce qui était à l'origine ou qui avait pu provoquer. C'était des pleurs qui vous submergeaient.
Oui. Et pourtant, mon garçon était déjà né il y a 2-3 mois. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas le baby blues, ça arrive dans les jours qui suivent. Et là, non, les premiers jours se passaient très bien. Et ma sage-femme m'a fait remarquer que ça se passait même trop bien. Elle a souligné le fait qu'elle me voyait trop en forme. Je faisais tout, j'étais à droite, à gauche.
Très active.
Très active.
Oui, oui.
Et effectivement, tout est retombé.
Oui, d'un coup.
Mois plus tard. Et voilà, c'est une période qui est toujours en cours, même si ça va quand même un peu mieux. Et donc, du coup, sur ces conseils, je suis allée consulter une psychologue.
Oui.
Que j'ai vue deux fois.
D'accord.
Je la revois là en fin de semaine.
Oui.
Et effectivement, on traite de la dépression postpartum. Néanmoins, moi, je me suis un petit peu renseignée et j'avais vu que pour la dépression postpartum, les mamans avaient peur de faire du mal à leur enfant ou de pas bien s'occuper de leur enfant. Mais moi, c'est pas du tout ma peur. J'ai pas peur de ça. Je suis juste, je pleure tout le temps. C'est tout. Mais j'ai pas peur de faire du mal à mon enfant ni de.
Oui, mais il y a plusieurs formes. Il y a plusieurs formes. Enfin, il peut y avoir ce qu'on appelle des phobies d'impulsion, où c'est très très angoissant pour les mamans parce qu'elles se voient faire du mal à leur bébé si elles passent près d'une fenêtre, par exemple, ou il y a des objets tranchants. Et en fait, ce qu'elles ne font jamais, hein, c'est de l'ordre de ce qui s'appelle une phobie d'impulsion. Elles visualisent, elles mentalisent une image qui est terriblement angoissante, mais qui, dans les faits, elles ne passent jamais à l'acte. Mais bon, ça. Mais vous, non, il y a plusieurs formes. Donc vous, c'est les pleurs, quoi. C'est les pleurs qui vous submergent.
C'est les pleurs qui me submergent.
Il faut comprendre ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui se passe? Il y a certainement un état aussi de grande fatigue. Et il y a forcément un état de grande fatigue. Vous me dites que votre petit garçon, comme tous les bébés au départ, confondent la nuit et le jour. Vous l'avez, je trouve, très bien exprimé au début de notre échange, Sarah, quand vous disiez que sur le plan physique, pas de problème, votre grossesse se déroulait bien. En revanche, sur le plan psychologique, c'était plus mouvementé, notamment les nuits. Et vous savez, on dit, les psys disent que l'inconscient est à fleur de peau pendant la grossesse.
Ouais.
Donc l'inconscient, il se manifeste particulièrement dans nos rêves ou dans nos cauchemars. Et si vous voulez, ça montre aussi une chose qu'on oublie. Trop souvent, c'est que la grossesse, c'est pas seulement un événement physique, c'est pas quelque chose de, un bouleversement physique, c'est aussi un bouleversement psychique.
Tout à fait.
Et parce qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des remaniements psychiques. C'est quand on parle de l'inconscient à fleur de peau, c'est-à-dire que le fait d'être enceinte vous ramène à votre propre histoire de bébé. Et c'est des choses très archaïques qui reviennent et qui reviennent toquer à la porte, finalement, là. Et dont on n'a pas souvenir consciemment, mais en fait, on en parlait récemment dans une émission, quand on parlait, on avait évoqué les émotions, tout s'imprime déjà d'abord dans notre corps. Et notre corps en garde la trace. Et là, il y a quelque chose, je trouve que vous l'exprimez magnifiquement, et c'est aussi... merci d'appeler, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez.
Je suis bien d'accord.
Et qu'on présente aujourd'hui beaucoup, où la grossesse est vécue sous l'angle toujours magnifique, merveilleux. Alors, c'est un événement heureux, évidemment. Mais... qui bouleverse. Et si on en parlait un peu plus, eh bien, je pense que beaucoup de femmes s'autoriseraient à dire qu'il y a des moments où elles peuvent être angoissées, tristes, perdues, se sentir, où il y aurait beaucoup de choses à dire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, a lieu, peut-être vous en avez-vous entendu parler, les Assises de la Santé Mentale. Et cette question de la dépression postpartum est évoquée. Et d'ailleurs, avec un projet qui va être mis en place, où systématiquement, les mamans vont être vues à la 5e semaine de vie du bébé. Et si on repère des signes un peu de souffrance, de mal-être, un suivi se mettra en place. Et c'est une bonne chose. Parce qu'il y a beaucoup de dépression qui passe inaperçue ou mise sur le compte. Alors, tantôt des hormones, et les hormones ont bon dos. Chez les femmes, dès qu'il y a quelque chose, c'est hormonal. Alors, ça joue. Ou du baby blues, ça passera. Mais c'est autre chose que le baby blues, la dépression postpartum.
Et j'en profite aussi pour parler aussi du congé maternité, qui, à mon avis, est ridiculement petit pour les mamans. Enfin, j'en avais pas conscience, bien évidemment, avant d'avoir un enfant. Du coup, je me suis un petit peu renseignée, j'ai lu pas mal d'articles, et je ne compte plus le nombre d'études qui prouvent à quel point c'est mauvais de séparer la maman du bébé trop tôt, aussi bien pour la maman, avec des risques de dépression postpartum qui sont immenses, et pour le bébé, qui est dans ce lien fusionnel avec sa maman. Donc voilà, il y a très peu de temps, on a augmenté la durée du congé paternité, et je trouve que c'est une très bonne chose, j'ai aucun problème là-dessus. Oui. Cependant, est-ce qu'on peut reparler aussi de la durée du congé maternité, puisque reprendre le travail quand son bébé a 2 mois et demi,
c'est rude.
Moi, je ne l'ai pas fait, et parce que je ne m'en sentais pas capable. Et mon bébé a 5 mois aujourd'hui, et moi, je reprends le travail dans 15 jours, parce que j'ai eu la chance de prendre un congé parental. C'est un sacrifice que j'ai fait, un sacrifice financier en tout cas, puisque c'est pas évident. On sait que l'arrivée d'un bébé, c'est aussi des frais. Voilà, moi, c'est pas une chose qui était importante pour moi à ce moment-là, mais mine de rien, ça crée des petites difficultés. Et là, je reprends le travail dans 15 jours et mon bébé aura 6 mois et je me sens pas capable, quoi. Je me sens pas capable, ça m'angoisse et je repars dans un système horrible pour moi où je pleure énormément, où je m'angoisse. Je sais très bien quand j'angoisse, j'ai des nausées et voilà, je vais avoir des nausées, des choses comme ça, quoi. Et pourtant, j'ai tout mis en œuvre pour que mon enfant soit gardé dans des bonnes conditions. J'ai tout préparé. Cependant, je sais qu'il sera entre de bonnes mains, puisque j'ai la chance de le faire garder par la famille. Mais cependant, je ne suis pas bien. Parce que
ça vous déchire le cœur, la perspective de la séparation avec votre bébé.
Parce que personne ne le connaît mieux que moi. Parce qu'aujourd'hui, je ne fais plus qu'un aussi avec lui. Et donc, moi-même, c'est perturbant pour moi d'être sans lui. Et je ne sais pas comment.
Il faut déjà peut-être que vous vous sentiez. Alors, il faut voir là. Parce que peut-être que. Il faut déjà vous avez besoin d'être entouré, besoin de soins là, et besoin de voir par rapport à ces pleurs, à ces crises de larmes, qu'est-ce qui est en train de se passer en fait, qu'est-ce qui émerge là de vous finalement. Vous dites il y a deux choses. C'est vrai que c'est un moment qui est difficile pour toute maman. De la perspective de se séparer de son bébé où vous dites très bien je fais plus qu'un avec lui et cette fusion des premiers temps de la vie elle est nécessaire parce que le bébé jusqu'à près 6 mois il y a déjà des choses qui émergent où il peut commencer même lorsqu'il se regarde dans un miroir enfin il y a ce qu'on appelle l'étape du miroir où finalement le bébé va finir par se reconnaître dans le miroir et donc là il va y avoir une distanciation avec sa maman qui est une étape importante dans son développement mais dans les premiers moments de la vie il ne fait pas la différence entre le corps de sa maman et le sien. C'est la fusion. Bon. Pour avoir travaillé en crèche, et je voyais des mamans qui arrivaient, quand je les recevais avec la directrice au moment de l'accueil, du temps d'adaptation, puisque ça se fait progressivement, une entrée à la crèche, combien j'ai vu de mamans pleurer avec leur bébé dans les bras à la perspective de cette séparation. Et c'est vrai qu'on voyait des bébés arriver à 2 mois et demi. Bon, je devrais pas le dire, mais c'est quand même très tôt, c'est vrai, pour se séparer d'un tout petit. Maintenant, il y a là quelque chose aussi en vous écoutant, j'ai souvenir aussi de maman qui était bien sûr très bouleversée à la perspective de confier leur bébé, de se séparer de leur bébé, et qui, dans la majeure partie des cas, quand elles retrouvaient leur vie professionnelle, finalement, y retrouvaient un certain plaisir, et au fond, comme s'il y avait quelque chose qui s'allégeait aussi, de retrouver un peu la vie d'avant, qui n'est jamais tout à fait comme avant, puisqu'il y a maintenant cet enfant qui est là, mais de sortir un peu de, au fond, comment dire, cette inquiétude permanente.
Oui,
pour le bébé.
Pour le qui vive, ouais,
oui, ceux qui vivent, cette sollicitude permanente. Voyez.
Oui, je conçois parfaitement, mais si vous voulez, c'est pas tant. En fait, c'est le rythme qui m'inquiète. Enfin,
vous avez un rythme très soutenu dans votre travail.
Ouais,
qu'est-ce que vous faites?
Je suis commerciale.
Ah
mais,
oui.
Et puis je suis en région parisienne.
Oui.
Et pour tous ceux qui vivent dans cette région, vous le savez bien que les temps de transport sont juste horribles. Moi, je prends la voiture parce que je bouge d'une zone à une autre dans une journée, donc c'est pas possible de le faire en transport en commun. Mais je peux mettre jusqu'à 5 heures par jour dans les bouchons.
Ouais. Oui.
Et j'en passe. C'est d'office, c'est 4 heures. Enfin, je mets 2 heures le matin, 2 heures le soir. Et je tourne dans un rayon de 15 kilomètres.
Oui. Enfin, vous avez raison de le dire, souvent quand on est les personnes qui ont la chance de vivre hors des grandes villes, hors de Paris, ne réalisent pas, font parfois beaucoup plus de routes d'ailleurs pour se rendre sur leur lieu de travail, mais ça circule, ça roule. Alors que là, la perspective de retrouver finalement ce rythme un peu infernal, vous aimiez votre métier malgré tout?
Non, pas spécialement.
Non, pas spécialement.
Pas spécialement. Et effectivement, quand vous parliez de bouleversement que provoque la grossesse et la maternité, moi, je le vis aussi, ça. De me dire quel est le sens, en fait, de tout ça. Et ça remet plein de choses en question sur des valeurs qui, aujourd'hui, sont plus les miennes. Des choses qui n'étaient pas importantes, qui étaient secondaires pour moi avant, aujourd'hui le sont plus, sont prioritaires, et inversement. Et c'est vrai que cette fibre commerciale qui m'allait avant, aujourd'hui j'aspire à autre chose, à quelque chose, d'autres valeurs.
Oui, c'est ça qui s'est mis. Il y a quelque chose qui s'est mis en place aussi au moment du confinement, et puis renforcé par le fait de d'avoir maintenant votre petit garçon. Alors, je ne sais pas. C'est vrai que la psychologue, vous l'avez vu seulement 2 fois. C'est encore tôt. Il est possible de prolonger cet arrêt maternité. Enfin, vous voyez, il peut y avoir. Il faut déjà que vous vous sentiez mieux, vous. Maintenant, la question que je me pose en vous écoutant, c'est, vous me dites qu'il y a des moments, vous êtes submergée par des crises de larmes qui surviennent, finalement, qui sont assez fréquentes, si je comprends bien.
Oui, c'est...
Tous les jours ?
Oui.
Tous les jours. Comment vous faites alors quand vous êtes avec le bébé ? Est-ce que vous arrivez quand même dans ces moments-là ou est-ce que vous êtes un peu tétanisée au fond, comme si perdue
Non, je me sens bien avec lui, mais parfois je vais pleurer devant lui et je m'en veux à ce moment-là parce
vous
que je
ne
veux pas qu'il ressente ma tristesse parce que c'est pas lié à lui, je l'aime tellement,
oui,
il m'apporte tellement
sûr.
De bonheur que je ne veux pas qu'il, qu'il ressente de mauvaises ondes, vous voyez, de mauvais sentiments parce que lui, il m'apporte tellement de sourires en même temps.
Oui, bien sûr, mais comme vous dites, c'est pas lié à lui et évidemment mais il y a quelque chose où non seulement vous êtes mal, mais en plus vous vous en voulez d'être mal et qu'il soit témoin. Alors, vous pouvez lui dire, ça peut se dire, maman tout petit. Tu sais, maman est triste, mais c'est pas toi qui es en cause. Je t'aime tellement. Je suis un peu fatiguée, un peu dépassée. Et peut-être que ça serait pas mal, même si vous ne repreniez pas tout de suite le travail, votre arrêt peut se prolonger parce que la priorité, c'est que déjà vous vous sentiez mieux, ça serait peut-être pas mal de pouvoir le confier un peu dans la journée, une heure ou deux heures, ou voyez si c'est votre maman ou votre belle-mère qui peuvent s'en occuper.
Oui.
Et que vous occupiez de vous. Parce que c'est de vous dont il faut s'occuper.
Mais j'y ai pensé à ça. Et ça m'arrive ça m'est arrivé, en tout cas pas beaucoup, je vais être honnête.
Vous avez du mal à le confier même à votre maman.
J'en éprouve pas, peut-être je n'éprouve pas de plaisir.
Oui, vous avez besoin de lui. Oui, vous avez besoin de lui là. Vous avez besoin de lui, c'est comme...
J'ai besoin de rentrer, j'ai besoin de le voir, j'ai besoin de le sentir, c'est presque animal quoi. Mm-hmm. Et parfois, la nuit, je le renifle, quoi.
Oui, mais ça, beaucoup de parents font ça. Quand vous dites c'est presque animal, il faut pas oublier que nous sommes des mammifères, hein, et qu'il y a quelque chose de très archaïque, et que quand on parle de corps à corps dans ces premiers moments de la vie, un bébé, on le respire, on le renifle, comme vous dites. Enfin, il y a quelque chose de très charnel dans ce lien, de très physique, de un peu indicible finalement.
Ouais,
mais
c'est rare, en fait.
Oui, mais là il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'au fond, lui, il va bien, votre petit garçon. Lui n'a pas des crises de pleurs, il est souriant, il est, voyez, donc bon, pour le moment, il baigne dans l'amour.
Je vous dis, en plus. Sur le papier, je peux même pas me plaindre. J'ai le bébé vraiment parfait, idéal. Je vous dis, j'ai un bébé qui fait ses nuits, j'ai un bébé souriant. J'ai pas un bébé. Enfin, je peux comprendre que ça tape sur les nerfs un bébé qui pleure tout le temps. Et dans ce cas-là, je comprendrais que je sois extrêmement fatiguée. Mais moi, c'est pas le cas. Enfin, je peux pas vous dire que je dors super bien parce qu'on reste tout le temps vigilante, même s'il dort. Notre sommeil, en tout cas moi, mon sommeil n'est plus le même qu'avant. Mais je veux dire, c'est vraiment pas lié à lui.
Vraiment non. Pas. Alors, c'est pas lié. En fait, en vous écoutant, je me dis, Sarah, c'est vous le bébé en ce moment. Oui, mais je dis pas ça. Je vous taquine pas en vous disant ça. C'est qu'il y a quelque chose. Vous savez, il y a, sur le plan psychique, il y a une forme de régression qui se met en place. Il y avait un pédiatre psychanalyste qui en avait très très bien parlé, c'était Donald Winnicott, et qui disait que psychiquement, il y a une régression qui se met en place et qui est essentielle, parce que finalement, pour pouvoir supporter la dépendance extrême d'un bébé, heureusement qu'il y a quelque chose de l'ordre de la régression qui permet de pouvoir répondre à ses besoins primaires. Dans les premiers temps de la vie, ça demande une attention de tous les instants. Mais cette régression, elle se met aussi en place, il y a quelque chose de votre histoire à vous qui remonte là, à la surface. Et c'est dans le cadre de la thérapie, en étant accompagné, il y a quelque chose qui va pouvoir émerger. Pour le moment, ce qui émerge, ce sont ces pleurs, cette tristesse, finalement. Et cette tristesse, elle dit quelque chose de vous. Et vous savez, parfois, dans la thérapie, ça peut se démarrer comme ça par des crises de larmes, où la personne se dit, mais finalement, je viens, mais je ne peux que pleurer. Mais oui, mais pleurer, c'est déjà exprimer quelque chose. Il faudrait comprendre, et peut-être, puisque vous êtes proche de votre maman.
Oui, très. Très, très.
Elle vous entoure, là, un peu. Vous lui en parlez de vos difficultés, de vous osez lui en parler.
Je suis assez pudique, finalement, avec ma maman, sur ces choses-là. Elle le sait que j'ai des hauts et des bas, mais on n'en parle pas trop.
Ça serait important, pourtant, parce qu'essayez de voir finalement qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Voyez, remontez un peu le fil de votre histoire avec elle. Comment ça s'est passé? Comment, quand elle vous attendait, quand vous êtes née, les premiers temps de votre vie, les séparations
parce que je sais que j'ai eu une séparation avec ma mère quand j'étais bébé, parce qu'elle avait des problèmes de santé, donc elle a dû me confier à mes grands-parents pendant les premiers mois de ma vie. Donc oui, je pense qu'il y a ce lien-là.
Et qu'est-ce qui s'est passé pendant les premiers mois de votre...
Je devais avoir 6 mois et elle a dû être hospitalisée plusieurs mois.
Ah,
et
oui.
Donc du coup, c'est mes grands-parents qui m'ont gardée.
Ah oui. Oui, mais ça c'est très important. C'est très important parce que...
Et ça va être à l'âge où moi je vais laisser mon
Fils. Oui. C'est ça. Ça vous... Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une détresse qui s'exprime chez vous. Mmh. Et de la détresse que vous avez dû ressentir quand vous étiez bébé, tout bébé. Et que peut-être votre maman, n'ayant pas le choix, devant être hospitalisée, vous a confié, a pris le soin de vous confier à ses propres parents, c'est ça ?
Oui, exactement.
Mais sans qu'on vous en parle et sans qu'on vous l'explique, et peut-être un peu précipitamment d'ailleurs. Puisque si c'est des problèmes de santé, et ça a duré
Ça a duré, plusieurs mois.
Alors pour un bébé, être séparé comme ça brutalement du corps de sa mère et de tout ce qui s'y rattache, enfin de son odeur, de sa chaleur, sans forcément qu'il y ait de mots mis autour de cette séparation. Parce que on le sait aujourd'hui à quel point même un tout petit bébé, on peut mettre des mots. Et les mots, le langage permet de faire exister l'objet, la chose ou la personne, même en son absence. Vous voyez, c'est finalement le mot vient nommer la chose ou la personne absente. C'est aussi comme cela qu'on accède au langage. Donc c'est en cela que le sevrage est très important. Mais il est possible que, dans cette situation déjà bien difficile pour votre maman, problème de santé, devant se séparer de vous, ça se soit fait un peu dans la précipitation, et votre monde a été totalement bouleversé. Et sans qu'on vous l'explique, et il y a certainement quelque chose de l'ordre d'une insécurité très profonde là, qui s'est installée en vous.
Oui, je me sens en insécurité.
Oui, une insécurité, oui. Et il y a quelque chose, Et ça, vous en avez parlé un peu lors de vos entretiens avec votre psychologue ?
Elle m'a posé la question et effectivement, du coup, j'en ai parlé à ma mère et elle m'a dit qu'elle m'a parlé de ce moment-là où effectivement, elle avait dû me laisser à mes grands-parents bébé. Oui, je l'ai abordé avec. Du coup, j'en ai parlé à la deuxième séance avec la psychologue et on l'a abordé.
Vous allez, si vous voulez, il y a quelque chose. Le fait aujourd'hui, parce que là, dans ces pleurs qui sortent, c'est finalement il y a quelque chose de la détresse du bébé que vous étiez. Et finalement, où il vous est impossible de vous séparer de votre petit garçon. Comme si ça vous mettait en danger, finalement, vous et peut-être lui. Et il n'y a pas eu de mots mis autour de cela, et c'est bien qu'aujourd'hui vous puissiez en parler. Quitte à ce que, par rapport, parce que comme vous dites, vous arrivez aussi à cette période, vous savez, les enfants sont très forts, enfin, ils le font pas exprès, évidemment, mais il y a des symptômes parfois qui émergent chez eux, là c'est pas le cas, mais les pédopsychiatres le savent bien, où finalement l'enfant arrivé à l'âge de son parent dans son développement, je sais pas si je vais être claire, parfois développe des symptômes qui ramènent à l'histoire du parent, de quelque chose qui n'a pas été bien intégré, bien digéré dans l'histoire du parent. Et l'enfant le traduit en symptômes.
D'accord, donc il pourrait...
Non, alors voilà, justement, je ne devrais pas vous donner cet exemple parce que, évidemment, je me dis, en parlant, là, vous voyez, c'est un peu les aléas du direct, je me dis évidemment, vous allez vous dire, oh là là, là 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 là, lui, il va développer des symptômes. Non, mais vous êtes en train de revivre quelque chose. D'accord. De votre histoire à vous. Okay. Et ce qui est très fréquent, parce que dans cet état-là, je vous dis, dans les mois qui suivent une naissance, il y a un état de vulnérabilité psychique. Et donc, c'est bien que vous soyez accompagnée. Il n'y a pas de traitement qui vous a été donné, même léger. Alors, vous voyez une psychologue, donc on n'est pas médecin, on ne peut pas vous prescrire de traitement, mais il n'y a pas quelque chose qui est envisagé pour vous soulager peut-être un peu?
Non, je pense que on n'a pas encore abordé.
D'accord, parce que ça peut aider. Parce que souvent, les psychologues travaillent en lien avec des médecins psychiatres. Et donc, il peut y avoir éventuellement un avis demandé pour un traitement léger. Hein, il ne s'agit pas. Mais pour peut-être un peu moins être dans cet état de souffrance. Vous voyez, qu'il y a un moment, vous submerge, vous déborde en fait. Donc, évidemment, l'espace de la thérapie va vous permettre d'en parler. Il est possible de aussi, finalement, un peu différer la reprise du travail pour vous. Quitte, mais ça, vous verrez avec la psychologue, c'est mon avis, mais quand même, à confier un peu votre bébé. Quelques heures par-ci, par-là, même si vous n'avez pas repris le travail. Pour lui permettre déjà lui aussi de davantage faire connaissance avec ses grands-mères, avec le lieu dans lequel il va être, et finalement vous occupez de vous. Et puis peut-être que vous pourriez dire à votre maman, parce que là c'est au-delà de la pudeur et c'est important peut-être de pouvoir le dire, parce que c'est vous qui avez besoin d'être entouré et soutenu. Comment réagit votre compagnon? Est-ce que vous lui en parlez à lui?
Ouais, enfin, il le voit, parce que on peut rire et je vais pleurer la minute d'après.
Donc, oui. Est-ce qu'il est tendre est-ce qu'il vous cajole? Est-ce qu'il vous console? Est-ce qu'il vous prend dans ses bras? Est-ce que
il a un peu
il est perdu.
Désemparé en fait.
Il est désemparé.
Il comprend pas.
Oui.
C'est pas méchant de sa part. Hein.
Oui.
Il comprend pas.
Il est déstabilisé.
Voilà, il est très déstabilisé.
Oui.
Je pense qu'il ne sait pas quoi me dire parce que je ne sais pas non plus bien m'exprimer.
Non, si, je trouve que si, en parlant avec vous, je trouve que vous arrivez à dire finalement, mais sur le moment, vous ne pouvez pas.
Non.
Et est-ce que finalement, je pense que vous auriez besoin, quand je disais c'est vous le bébé en ce moment. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et un bébé, il a besoin d'être cajolé. Protégé, entouré, il a besoin de bras. Et peut-être que vous pourriez lui dire qu'il vous prenne dans ses bras. Vous avez besoin d'être materné un peu en ce moment. L'espace de la thérapie va vous offrir ce cocon un peu protecteur. Hein? Mais est-ce que votre mère, elle est d'un naturel tendre et parce que vous me parlez de pudeur, est-ce que ça se traduit aussi dans les gestes? Est-ce que finalement elle peut être tendre et
elle peut l'être. Et,
oui.
C'est vrai que elle s'occupe un peu de tous les petits enfants en ce moment, donc elle est aussi pas mal prise.
Elle est très prise.
Que j'ai mon frère et ma sœur qui ont aussi des enfants petits, donc et ma mère est très importante dans notre vie, donc elle s'occupe aussi beaucoup des petits enfants, donc elle est très prise.
Elle est très prise. Est-ce qu'il y a des et si vous lui disiez est-ce que vous ressentez un peu le besoin de au fond est-ce qu'une présence parfois un peu dans la journée vous ferait du bien auprès de vous vous sécuriserez. Tout passe par votre bébé.
Oui, tout passe par lui. Et ma mère vient me voir régulièrement, mais elle vient avec ma nièce qui est petite.
Oui, il faudrait qu'elle vienne.
C'est beaucoup de bruit et c'est beaucoup
non,
de.
Vous avez besoin de calme,
de
oui.
Bazar et de bazar et de choses comme ça. Et. J'ai tendance à aimer la propreté. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est accentué pendant ma grossesse, mais je pense que c'est dû aux angoisses.
Oui, donc vous êtes très angoissée.
Donc, ça va vite me fatiguer parce que il faut que je nettoie, il faut que...
Faut lui dire à votre maman. Je pense que là, vous avez surtout besoin de calme et que l'on s'occupe de vous. Vous savez, c'est une chose, si on pouvait faire passer ce message, on est beaucoup, enfin, les femmes enceintes, qu'on les bichonne, qu'on les cajole, très bien. Mais c'est vraiment.
Ouais, on oublie, après, je suis d'accord.
Mais après, c'est après que les femmes ont besoin, et particulièrement de leurs compagnons, et où finalement la famille, beaucoup s'occupe du bébé, tout le monde est après le bébé. Mais en fait, les femmes ont aussi besoin beaucoup d'être entourées dans ces moments-là, et maternées.
J'ai accouché en plein confinement, enfin moi j'ai pas eu le droit de visite, j'ai accouché avec un masque, c'était déjà une atmosphère particulière, donc... J'étais toute seule avec
À distance.
On se voyait par vidéo.
Oui, c'est dur.
C'était particulier déjà.
C'était seule, oui. Mm. Il faudra peut-être voir avec votre psychologue, parce qu'il est possible de... Enfin, vous verrez, ça peut être votre médecin traitant, mais peut-être par rapport à cette détresse, à ces angoisses, vous donner quelque chose de léger. Hein. Évidemment, vous devez vous occuper de votre bébé, il ne s'agit pas du tout de vous assommer. Mais peut-être pour que ça vous fasse un peu moins mal quand même, voyez, que vous soyez un peu moins submergé. Quelque chose où on tiendra compte du fait que vous avez votre bébé et dont vous devez vous occuper. Mais donnez-vous du temps, ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ressurgit de votre histoire à vous. On va marquer une petite pause, Sarah, une petite pause musicale. Véronique, après, vous avez un peu de temps encore ? Vos nuits sont le bébé dort,
oui,
vous êtes un peu tranquille, vous
avez un peu de temps.
Parce que j'aimerais bien après que vous puissiez écouter Véronique qui vous a entendu et qui voudrait vous parler, parce que elle comprend très bien ce que vous traversez. On marque une petite pause.
Avec plaisir, merci.
Et puis on se retrouve juste après, d'accord, Sarah?
D'accord.
À tout de suite.
À minuit 30,
Caroline Dublanche sur RTL.
Parlons-nous.
Et on vous retrouve, Sarah.
Oui.
Alors, j'ai des messages qui arrivent pour vous avant qu'on accueille Véronique. Il y a Evelyne de Lisieux, elle dit « Je vous écoute attentivement et combien je retrouve ma fille dans ces moments après la naissance de son bébé, de sa petite fille pendant le confinement. » Evelyne qui dit « Je vais la voir chaque semaine pour la réconforter et m'occuper de son bébé. Plein de courage à vous. » Il y a Bambi aussi qui dit « La naissance de votre fils a déplacé le curseur de vos priorités. » Peut-être que aussi, par rapport à votre travail, pourquoi ne pas envisager dans le futur une rupture conventionnelle pour vous orienter dans une nouvelle voie professionnelle qui vous correspondrait mieux. Il y a Brigitte qui dit « Expliquez vos besoins à votre mari. Il comprendra certainement que vous avez besoin de bras, de tendresse, et cela vous fera du bien et pourra vous rassurer. » Et même, elle ajoute, ça pourra le rassurer lui, que vous puissiez un peu mettre des mots là-dessus, et qu'il se sente finalement qu'il est là pour le bébé, mais que vous avez besoin de lui aussi en ce moment. Et elle ajoute, n'oubliez pas que les choses évoluent, que cette période ne durera pas, mais en tout cas, c'est un témoignage qui parle et qui soutiendra beaucoup de mamans, qui n'osent pas toujours appeler. Hein, parce que justement, c'est presque beaucoup n'osent pas en se disant « Oh là là, c'est pas normal d'éprouver ça. » Et en fait, ça ferait tellement de bien si justement on pouvait un peu plus entendre des mères témoigner aussi de ce qu'elles vivent. Bonsoir Véronique.
Bonsoir.
Alors, vous avez écouté attentivement Sarah, et merci d'avoir appelé le standard de Parlons-nous, 09 69 39 10 11. Il y a des mamans ou des pères aussi qui nous écoutent et qui se retrouvent un peu, ou qui vous souhaitez témoigner de votre soutien à Sarah. N'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil. C'est ce que vous avez fait.
Voilà, exactement. Donc, je dis bonsoir à Sarah. Et je voulais vous dire qu'en effet, on ne dit pas suffisamment que les lendemains d'accouchement ne sont pas forcément des lendemains qui chantent. Mmh, mmh. On peut avoir des réactions très, très différentes. Moi, j'ai eu deux enfants, j'ai eu deux réactions très différentes. Je vais passer vite parce que c'est pas tellement de ça que je veux vous parler. J'ai eu un enfant où l'accouchement est allé très vite, sans douleur, etc. Mais où ensuite j'ai passé
jours et 4 nuits sans dormir du tout, alors que je ne m'en occupais pas. Il était à la nurserie. J'avais l'impression qu'on me hurlait dans les oreilles. J'ai cru que je devenais folle. Le personnel soignant était complètement désemparé. Il n'y avait pas de psychologue ni de psychiatre disponible, donc c'est moi qui ai pris sur moi de téléphoner à une clinique, à une maison de repos, et j'ai dit ça va pas du tout, je crois que je vais faire un épisode de psychose puerpérale ou je sais pas quoi, est-ce que je peux venir? Et donc ils m'ont reçue et en fait je suis restée quelques temps à me reposer et j'avais le droit évidemment de sortir tous les jours et j'allais voir mon bébé tous les jours, enfin j'étais pas séparée de mon enfant. Et pour mon autre enfant qui était le premier en fait, alors là c'était complètement différent, au bout de 15 jours j'en pouvais plus d'être en tête à tête avec lui. C'était mon compagnon travaillait en province, il était très peu là, et donc j'étais face à face avec cet enfant qui était mignon comme tout, mais je lui disais, tu sais, je t'aime, mais alors j'en peux plus là, c'était tête à tête, les yeux dans les yeux, je n'en peux plus. Et c'est comme ça que j'ai entendu parler. C'est pour ça en fait que j'appelle pour dire à Sarah de regarder si autour d'elle il n'y a pas des lieux parents-enfants. Un peu à l'image de ce qu'a fondé Françoise Dolto à Paris dans le 15e, qui s'appelle la Maison Verte, où j'ai eu la chance
d'en parler,
d'aller.
Vous y êtes allée. Alors expliquez-nous ce qui est pour les auditeurs et pour Sarah.
C'est formidable, extraordinaire. Hein. Non seulement j'y suis allée, mais j'en ai usé et abusé parce que il se trouve que c'est à 300 mètres de chez moi, donc c'était vraiment formidable. Oui. J'y suis allée aussi bien en semaine pendant mon congé maternité que le week-end. Avec le papa, mes enfants. Et alors, donc, le principe, c'est que vous venez avec votre enfant, ça va de 0 à 3 ans révolus. Vous ne le laissez pas. C'est le principe. Même pour aller mettre 1 euro dans l'eurodateur, hein, vous ne sortez pas du lieu qui est défini par les murs de cette maison verte. Mais en revanche, l'enfant, lui, va évoluer librement dans cet espace qui est pas très grand, donc c'est très convivial. Les parents sont assis sur des banquettes, les enfants, les tout-petits sont sur des tapis d'éveil, ceux qui sont un peu plus grands, ils peuvent jouer à l'eau, on dit jouer à l'eau, enfin c'était important, je crois, pour Françoise Dolto d'utiliser l'eau, et donc il y a des enfants qui sont devant des mini lavabo en tablier, ils jouent à l'eau, et puis il y a des camions aussi, des jouets camions.
En fait, c'est pour préparer justement les parents et les enfants à la séparation, avant un mode de garde en nourrice, en crèche ou à l'école. C'est
et
pour
même
ça.
Avec la famille, vous voyez, c'est-à-dire que quand on va faire garder l'enfant par la famille, au fond, moi je trouve que c'est comme s'il ne sortait pas de la sphère maternelle. Or, apparemment, Sarah, ce qui vous est difficile, c'est de vous séparer de ce bébé. Et si jamais vous trouvez un lieu comme celui-là, où vous allez vous retrouver avec d'autres adultes, avec d'autres enfants petits, ce dont vous allez vous apercevoir, c'est que d'abord, ben oui, ce genre d'endroit vous prépare au retour à la vie où on est avec les adultes et sans les enfants. Mais surtout, vous allez voir que votre bébé, il se passe très bien de vous. Il ne faut pas vous inquiéter.
J'en doutais pas, en fait.
Non, mais c'est important.
Je pense que c'est plus moi qui ai du mal à me passer.
Oui, mais ça va vous faire plaisir.
Il faut préciser que dans ce lieu, il y a des psys, mais qui ne sont pas, qui n'interviennent pas. Vous voyez, c'est pas des consultations.
Non.
Hein. Ils sont présents si besoin.
Voilà. Et ce ne sont pas des consultations. Si vous avez une question à poser, ils vous répondent volontiers. Ils parlent avec l'enfant, mais comme une autre personne parlerait, hein, qui ne serait pas psy. Et ce qui est extraordinaire, vous disiez que vous aviez besoin de calme, c'est qu'en dépit du fait qu'il y a beaucoup d'enfants et beaucoup de bébés, c'est calme. Donc ça, Ça fait quand même un signe. Miracle de cette affaire.
Mais ce qui est, et c'est là où Françoise Zoltoil a été révolutionnaire dans sa, dans la parce que elle avait, elle savait à quel point ces moments de séparation nous ramènent à toutes les séparations qui ont été mal vécues, ramènent les parents à toutes les séparations qui ont été mal vécues dans leur propre histoire personnelle. Et ce lieu, c'est comme un cocon, un lieu où on peut parler, où on vient avec son bébé. Et ça, vous ne vous séparez pas de votre petit garçon, mais il y a d'autres parents. C'est un lieu de transition, finalement.
Exactement.
Un peu ce à quoi servent les objets transitionnels. Vous savez, ces fameux doudous dont les enfants ne se séparent pas parce que ça fait le lien entre le dedans et le dehors.
Oui,
entre la maison et l'extérieur.
Exactement. Alors, à la fois, ça aide la maman à sortir de chez elle. Hein, parce que c'est quand même pas mal de savoir qu'il y a un endroit comme ça où on va retrouver d'autres adultes, d'autres enfants, et puis en plus, deux ou trois professionnels qui peuvent être là en cas de coup de mou.
C'est ça.
Et d'un autre côté, ça permet de pas complètement lâcher son enfant, d'en être séparé en une seule fois, puis encore une fois, je ne sais pas ce que comment Sarah le vivra, mais moi, ça m'a ôté un poids et ça m'a fait plaisir de voir que mon bébé pouvait se passer de moi.
Oui, qu'il était bien lui aussi, vous le sentez.
Voilà, et je me souviens que justement, une des psys qui était là l'a pris dans ses bras pour je ne sais plus quelle raison, enfin, elle le promène un peu. Et puis, elle me dit, bah, profitez-en pour vous reposer, regardez, il vous le permet.
Oui, eh oui, tout
et
est dit.
Et je me suis dit, mais elle
tout
a raison.
Dit. Tout est dit.
Il faut que je sois attentive à ce genre de signes.
Oui.
Elle le prend dans ses bras, il pleure pas, il a pas l'air malheureux, tout va bien. Voilà.
Oui, ça vous ça vous apaise. Je vous remercie infiniment, hein, Véronique, d'avoir appelé parce que c'est et pour avoir parlé des maisons vertes créées par Françoise Zolto, parce que c'est formidable, ça existe toujours. Vous disiez Sarah, vous êtes en région parisienne.
Oui, je connaissais pas et
ça vaut le coup d'aller.
Alors, écoutez, si vous n'êtes pas trop loin de Paris, vous avez une. Alors vous avez la maison verte fondée par Françoise Zolto, parce qu'ensuite
dans le 15e,
il y en a eu d'autres à droite et
à des
gauche.
Espaces comme ça de transition.
Voilà.
Il va falloir qu'on se quitte parce que ça va être l'heure des infos. Mais merci beaucoup parce que je pense que cette information, c'est bien d'en parler de ce qu'a fait Françoise Zolto, de cette maison verte et ça peut aider beaucoup de parents. Merci Véronique.
Merci beaucoup Véronique.
Sarah, prenez bien soin de vous.
Merci beaucoup.
Donnez-vous du temps. Vraiment, donnez-vous du temps, ça va aller mieux. Ça va aller même beaucoup mieux parce que vous allez pouvoir un peu réparer ce qui était en souffrance chez vous. Je vous embrasse.
Merci.
Je vous embrasse, Sarah. N'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles, hein, avec plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL. Jusqu'à minuit 30, parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL.
Nous sommes à vos côtés pendant une demi-heure encore. Alors si vous avez du mal à trouver le sommeil à cette heure déjà avancée de la nuit parce que vous avez des soucis, des contrariétés d'ordre privé ou professionnel, ne restez pas seul. Je suis là pour vous, à votre écoute. Vous pouvez appeler le standard de Parlons-nous au 09 69 39 10 11. Vous pouvez, avant de peut-être d'écouter un petit peu de musique, il y a encore une réaction des pères peut-être qui se manifestent suite au témoignage de Sarah qui était extrêmement touchante parce qu'elle avait beaucoup de mal à l'idée, à la perspective de reprendre le travail et à se séparer de son petit garçon.
Oui, une réaction de papa, de Christian qui dit j'ai quatre enfants. Chaque maman a eu un comportement, une réaction différente. Toutefois, je me suis toujours, en tant que papa, j'ai toujours prodigué beaucoup de tendresse, de la proximité, porter attention aux mamans. Nous, les hommes, sont démunis envers une chose que nous ne connaîtrons jamais. Donc, seul notre amour peut les apaiser et les rassurer. Le papa doit le savoir. Parlez-en avec lui, il le faut.
Comment s'appelle cet auditeur ?
Christian.
Christian, quand il dit une chose que nous ne connaîtrons jamais, Christian, il a été un tout petit bébé aussi. Donc, eh oui, non mais il ne faut pas oublier ça.
Maman.
Non, mais ce qu'on veut dire par là, c'est que les hommes qui écoutent, moi, ce que j'ai envie d'insister sur le fait, on parle beaucoup des nouveaux pères et c'est très bien, qui sont très présents aux côtés de la maman pour les seconder dans les soins donnés au bébé. Mais il ne faut pas oublier que dans les premiers temps de la vie, il est important qu'ils soient là aussi pour leur femme. Et pas seulement pour le bébé. C'est-à-dire que de l'aider, au fond, à elle pouvoir prendre soin de ce bébé, alors c'est la soulager dans les tâches, effectivement dans les soins apportés au bébé, mais c'est aussi beaucoup d'attention portée à elle. Parce qu'il y a quelque chose de l'ordre un peu d'une régression qui se met en place et ça ne se manifeste pas forcément avec l'intensité dont nous parlait Sarah, mais il y a besoin à ce moment-là d'être très présent. Et c'est en cela aussi qu'il va l'aider, que l'homme va l'aider à trouver cette place de mère. Donc n'oublions pas ça, que les mères ont besoin d'être particulièrement entourées et sécurisées après la venue au monde d'un bébé. Il y a un petit message de Brigitte qui dit « J'ai un très bon souvenir de la Maison Verte. Une manière d'être avec son enfant tout en étant entourée. Une forme de socialisation douce pour les tout-petits. Ce que dans d'autres cultures, ils ont mis en place très tôt. Il y a dans des cultures africaines notamment, dans les premiers moments, la maman qui vient de mettre au monde son bébé, on prend soin d'elle, on lui apporte, c'est tout un village. Et on dit il faut tout un village pour s'occuper d'un enfant. Ben oui, il y a quelque chose, c'est-à-dire que dans les premiers temps, la mère, on lui apporte à manger, on est présent pour elle, et il y a toutes les tantes, toutes les mêmes, les voisines qui s'occupent du bébé, elle n'est pas seule. Aujourd'hui, dans nos sociétés modernes et très individualistes, ben, c'est 3 jours à la maternité, retour à la maison, et retour à la maison avec un petit être totalement dépendant, dont la survie dépend des parents, et tout ça est forcément très lourd, et il n'y a plus assez la famille qui tient lieu de filet de soutien auprès des parents, et ça compte. C'est l'un des 2 nouveaux titres dévoilés en cette rentrée par ABBA, le retour événementiel 40 ans après avoir mis leur carrière sur pause, se concrétisera par un nouvel album ABBA Voyage, sorti prévu le 5 novembre, et vous venez de l'écouter sur RTL à l'instant même.
Jusqu'à minuit 30,
Caroline Dublanche sur RTL.
Parlons-nous.
Bonsoir Michel.
Bonsoir Caroline.
Et bienvenue. Alors je crois qu'on s'était parlé, vous aviez appelé une première fois...
Courant janvier
2021.
Janvier. D'accord.
Vous pouvez un petit peu me resynthétiser s'il vous plaît votre appel de janvier pour moi et puis pour les auditeurs aussi.
Eh bien j'avais appelé parce que depuis 30 ans j'étais hanté par... une jeune femme qui était mon premier amour et ma première fois.
Mmh.
Et qui revenait de temps en temps dans mon esprit sans trop savoir pourquoi. Et donc je l'ai cherchée longuement. Donc, je ne la trouvais pas et donc ça s'en allait, puis ça revenait, puis ça s'en allait, puis ça revenait.
Quand vous dites que vous l'avez cherchée, c'est-à-dire concrètement
Oui, oh. Concrètement, je cherchais sur Internet avec son nom si je trouvais une trace quelconque.
Qu'est-ce qui vous avait tant marqué chez... Alors c'était votre premier amour, votre première fois sexuellement mais...
Voilà, c'est ça, et ça s'était mal passé.
Oui, moi je me souviens de vous. Et de ce que vous pensiez s'être mal passé, c'est-à-dire dans ce premier rapport que vous aviez eu avec elle, pour vous, ça s'était mal passé.
Oui, c'est ça. Et
mal passé, alors, c'est-à-dire, vous allez me dire où vous en êtes aujourd'hui, Michel, mais pour que peut-être ceux qui ne vous avaient pas entendu la première fois comprennent un peu ce que vous éprouvez, ce que vous vouliez dire. Qu'est-ce qui s'était mal passé pour vous ?
Eh bien, lors de notre nuit, j'avais eu un comportement incorrect avec cette jeune femme. J'avais été plutôt violent.
Vous étiez alcoolisé ?
Non, non.
D'accord. Et vous ne l'avez plus revu après ?
Et suite à cette nuit-là, on s'est quitté et on ne s'est jamais revu. Les parents étaient rentrés dans la danse, entre guillemets, et ses parents avaient dit au mien qu'ils nous interdisaient de nous revoir.
D'accord. Donc aujourd'hui, 30 ans plus tard, vous avez eu d'autres rencontres, d'autres femmes ont traversé votre vie, et pourtant, vous dites que le souvenir de cette jeune femme, vous aviez quel âge tous les deux à l'époque ?
Alors, 18 et 16.
18 et 16. Vous hante, c'est votre expression.
Ben oui, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la seule et unique personne à laquelle je pense comme ça de temps en temps.
D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé depuis notre alors premier échange en janvier ? Comment, où en êtes-vous un peu aujourd'hui, Michel ?
Alors, au premier échange en janvier, je l'avais retrouvée sur Internet.
Mm-hmm.
J'étais entré en contact, alors pas avec elle, mais avec sa fille, qui m'avait dit que sa mère ne souhaitait pas entrer en contact avec
c'est
moi.
C'est ça. Ouais.
Et puis, de fil en aiguille, j'ai malgré tout insisté dans mes recherches. Et j'ai pu obtenir son numéro de téléphone. Et j'ai envoyé un message pour lui expliquer un peu ma démarche. Et pourquoi je...
Un SMS, vous voulez dire ?
Oui, oui.
D'accord.
Et... elle a fini par me répondre et m'accorder cet appel téléphonique.
D'accord, donc vous avez pu lui parler.
Mmh.
Quelle a été sa réaction ? Parce que j'imagine, 30 ans plus tard, elle a dû être quelque peu surprise que vous cherchiez à lui parler, se demander un petit peu quelles étaient vos motivations, non ?
Elle le savait déjà indirectement, puisque par le biais des messages avec sa fille.
De sa fille, d'accord.
J'avais déjà expliqué. Oui. Pourquoi je réapparaissais comme ça subitement. Mais là, au téléphone, j'ai pu lui expliquer donc qu'elle réapparaissait régulièrement dans mon esprit.
Mm-hmm.
J'ai pu lui demander pardon de vive voix. Elle, de son côté, m'a dit qu'elle était aussi quelque part responsable du fait qu'on ait découché et qu'on se soit retrouvé à l'hôtel. Et que donc
elle était amoureuse de vous, comme vous l'étiez d'elle.
Voilà. J'ai pu avoir des informations aussi, puisque moi, je ne me rappelle pas de notre histoire, je ne me rappelle que de cette nuit. Donc j'ai eu quelques infos sur comment on s'était rencontrés et tout ça. Mais malgré tout, j'ai l'impression que je n'ai pas pu m'exprimer, en fait, par rapport à ce que j'avais dans l'idée de lui dire.
Que vouliez-vous lui dire ?
Elle a fini par me demander que je me le demande justement ce que j'aurais aimé lui dire parce que je pense que j'aurais aimé lui faire partager, je sais pas si je peux dire ma souffrance, le fait de penser à elle et de ne pas pouvoir lui parler ou de ne pas pouvoir la voir ou de ne pas pouvoir avoir de contact en fait avec elle.
Mais l'échange, enfin, est-ce que cette nuit dont vous me parlez, où vous considérez que vous avez eu un comportement incorrect avec elle, plutôt violent, est-ce que de son côté, vous avez pu en reparler ? Est-ce qu'elle l'a vécu comme vous ?
Qu'elle l'a vécu comme moi parce qu'on n'a pas parlé directement de la nuit en question, mais elle m'a dit que elle avait oublié assez rapidement.
Ben voilà.
Donc assez rapidement, on savait tout dire et rien dire en même temps, mais que ça ne l'avait pas perturbée dans sa vie de jeune fille et de femme.
Voilà.
Plus tard. Et d'un autre côté, j'ai...
Oui.
J'ai un peu le sentiment qu'elle a
Oui, je vous écoute.
Essayé de me rassurer et de faire en sorte que le contact reste néanmoins bref.
Bah, vous imaginez, Michel, quand bien même vous aviez cherché à prendre contact, vous aviez eu d'abord sa fille, au départ par sa fille, vous saviez qu'elle ne voulait pas vous parler. Elle n'est pas dans votre tête et elle peut s'interroger sur ce qui fait que 30 ans après, ça vous hante comme ça. Et au fond, ce qu'elle vous dit, elle, bah, c'est que le temps a passé, la vie a passé, elle a rencontré certainement d'autres hommes, elle a aimé, elle a eu des enfants, et que finalement, pour elle, c'est de l'histoire ancienne. Mais pas pour vous.
Je ne sais pas, à vrai dire.
Bah, vous me dites... Oui, pardon.
J'ai eu le même parcours qu'elle.
C'est-à-dire
j'ai eu d'autres compagnes, j'ai été mariée, j'ai eu des enfants. Donc on a un parcours, somme toute, classique.
Oui, mais vous, c'est vous, et elle, c'est elle.
Oui, on est d'accord.
Oui, mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être élaboré de votre côté. Mais en fait, pas auprès d'elle. Je vous avais dit d'ailleurs, je pense qu'il serait important que vous vous penchiez là-dessus. Parce que vous avez besoin de parler, je me souviens très bien de notre échange, Michel. Au fond, on tourne autour de quelque chose, de cette nuit qui aurait été donc de votre comportement. Je vous avais un petit peu... Essayez de savoir, puisque c'est vous qui en parliez, qui appelez comportement incorrect, vous parlez de violence. Mais au fond, il y a comme un blackout. Comme si ça, vous ne pouviez pas en parler. Mais c'est entre vous et vous. Et finalement, pourquoi ? Alors, je vais vous le dire un peu, peut-être frontalement. Pourquoi elle est encombrée, cette femme, aujourd'hui ? Au fond, de ce qui relève d'une souffrance qui vous est personnelle, qui n'est pas la sienne. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Oui.
Parce que déjà, c'est-à-dire, il y a deux choses qui m'interpellent. C'est quelque chose qui, chez vous, dans ce comportement que vous jugez incorrect, où il y a peut-être quelque chose de vous, une image de vous-même qui vous gêne, que vous n'arrivez pas à intégrer, comme si c'était un autre que vous, dans cette histoire de demander pardon. Mais il y a aussi une autre dimension qui est, au fond, cette nuit-là aurait marqué au fer rouge cette femme. Même si c'était en négatif, hein, c'est-à-dire du fait de votre comportement. Mais en fait, comme si c'était quelque chose de, oui, marqué au fer rouge. Quand on dit laisser un souvenir inoubliable, en positif ou en négatif. Or, ce qu'elle vous dit, cette femme, c'est que finalement, ça ne l'a pas empêchée de vivre, d'aimer. C'est peut-être ça que vous avez du mal à entendre, vous.
Je ne sais pas.
Comme si vous vouliez, il y a quelque chose qui resterait impérissable. Or, il y a quelque chose qui se joue entre vous et vous, Michel. C'est vous, en fait, c'est vous qui êtes tenté par elle, pas elle par vous.
Ah oui, j'en ai d'accord.
Et ça mérite, de fait, que vous penchiez là-dessus. Pourquoi vous êtes autant hanté ? Qu'est-ce qui vous hante au fond ? Et de cette violence dont vous auriez fait preuve, violence où vous avez été très sibyllin. C'est-à-dire que j'ai essayé avec vous de comprendre sans aucun jugement de ma part, puisque vous en parlez pour essayer de comprendre. Mais j'ai le souvenir qu'au fond, on tournait autour de quelque chose qui ne pouvait pas se dire. Et c'est là où je me demande, en vous écoutant, de quoi parlez-vous ? Parce qu'il y a quelque chose dans cette... qui, je pense, va au-delà de l'image que vous avez de vous-même ou de... Parce que je me souviens très bien vous avoir demandé si vous aviez forcé les choses et que finalement, pris par votre désir pour cette jeune femme, vous l'auriez contrainte à une relation sexuelle qu'elle n'aurait pas, elle, souhaitée, de par votre jeune âge. Bon, ce qui peut arriver, pris dans l'impulsion d'un désir, surtout quand on est adolescent. Mais au fond, cette femme aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle vous dit ? On était tous les deux responsables. On a découché. Et qu'est-ce qu'elle vous dit ? Vous étiez amoureux ? Vous l'avez pas, enfin, vous êtes allé à l'hôtel, elle vous a suivi. Bon, au fond, elle vous dit, voilà, c'est passé. Et ça ne l'a pas anéanti. En tout cas, ça ne la hante pas. Mais qu'est-ce qui vous hante, vous ? Et c'est là-dessus qu'il faudrait vous pencher. Mais je pense en thérapie. Voyez ? C'est pas auprès d'elle. Il y a quelque chose... Il y a Cathy qui dit, si c'est aussi présent dans votre esprit, c'est peut-être que vous, vous n'arrivez pas à être heureux aujourd'hui. Et puis, il y a quelque chose aussi dans... Il y a quelque chose d'une dimension narcissique. J'y reviens. Comme si cette nuit l'avait marqué au fer rouge. Or là, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Non. Ça ne l'a pas empêché de vivre. Alors évidemment, ce n'est peut-être pas la réponse que vous attendiez. Mais ça mérite d'être...
Moi, je voyais plutôt les choses dans l'autre sens. Mais...
C'est-à-dire ? Dans quel sens ?
Ben, c'est plutôt moi qui ai été marqué au fer rouge.
Oui, mais vous me parlez, voyez, c'est plein de contradictions. Vous me dites que vous auriez eu un comportement incorrect envers elle, violent. Et finalement, vous l'appelez pour parler de votre souffrance à vous. C'est quand même paradoxal. Alors, que vous soyez en souffrance, oui, je l'entends. Mais de quoi ? Et ça, c'est, il faut remonter le fil de l'histoire. D'avoir eu un comportement qui vous a dépassé. Et je vous avais même demandé si dans votre vie d'homme, vous aviez eu, s'il y avait des choses qui s'étaient répétées dans votre histoire. Ou si vous aviez eu des comportements violents vis-à-vis de femmes que vous aviez aimées ou désirées. Et si je me souviens bien, vous m'aviez répondu par la négative. Alors, de quoi parle cette violence ? Finalement, dans la sexualité, il y a quelque chose qui peut être vécu comme violent, dans l'acte sexuel même, surtout quand c'est une première fois. Et puis, il y a tous les interdits liés à la sexualité qui peuvent remonter. Parce qu'enfant, eh bien, on baigne dans des interdits qui sont liés à la sexualité. Donc, il y a quelque chose de très intime. Voyez, et la réponse, elle n'est pas à chercher du côté de cette femme, Michel. Elle est à chercher en vous-même. C'est ce que dit Brigitte. Elle dit, vous voudriez qu'elle ne vous ait pas oublié. Mais actuellement, vous êtes seule dans l'histoire. Et qu'est-ce qui vous a traumatisé, vous, à ce point-là ? C'est là-dessus qu'il faut chercher. Voyez ?
Ouais.
Pas auprès d'elle. Parce qu'évidemment, au fond... Bon, vous êtes allé au bout de votre démarche. Moi, je me souviens, j'étais un peu... Je vous disais que ça peut quand même être un peu intrusif de surgir dans la vie de quelqu'un 30 ans après. Bon. Vous êtes allé au bout de votre démarche. Très bien. Et au fond, la réponse qu'elle vous fait... vous renvoie à vous-même et vous laisse un peu plus seul encore. Donc, vous avez bien fait de me rappeler, parce qu'on peut en parler. Et moi, je vous invite vraiment à en parler, dans le cadre un peu d'un soutien thérapeutique. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont émerger. De façon à ne plus être hanté, comme vous disent. Comme vous dites, c'est l'heure tardive.
Oui, c'est ça.
Voyez ? Oui. Allez voir quelqu'un pour en parler. Et de laissez-la à elle. Vous voyez ? C'est pas de son côté que vous aurez des réponses. C'est vous les avez. Mais il faut que vous puissiez un peu mettre des mots. Et je pense que vous allez, ça va vous amener sur autre chose.
Mais,
merci, en tout cas, de votre confiance, Michel. Bonne soirée. Au revoir.
Bonne soirée, au revoir.
Voilà, c'est fini pour ce soir. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle nuit, faites de jolis rêves. Et puis toute la petite équipe de Parlons-nous sera heureuse de vous retrouver ce soir sur RTL dès 22h.